ma poule dans la tête.
Groovy.
Bonjour, les papous, la récré de France Culture, de midi 50 à 13h58 et en podcast sur franceculture.fr quand vous le voulez. À l'affiche Voyage Voyage, aux eaux ou dans le ciel avec Patrice Caumont, dans la langue avec des rimes et un chat ou dans les fantasmes. Serge Joncourt, vous êtes candidat à la primaire ?
Oui, alors si vous voulez, ce qui est intéressant quand on annonce sa candidature, c'est que vous posiez la question un peu différemment.
Oui, c'est-à-dire
C'est-à-dire, est-ce que vous serez candidat à la primaire, c'est ça?
Alors,
c'est ça, parce que moi j'ai répété dans ma salle de bain.
Et puis, retour au pays des sumos avec Lucas Fournier, Jean-Bernard Pouy et Véronique Brindeau. Il sera question de l'impressif Chito Chito.
Par exemple, en tout cas, c'est encore plus vrai la saison des pluies. Tsuyutoki no sentakumo wakaitemo nantonako shito shito suru. Rien à faire, à la saison de pluie, le linge qu'on met à sécher reste humide.
Ce qui est désagréable.
À la fin, ça finit par être pénible.
Françoise Trossard et la belle équipe vous souhaitent un joli dimanche papou. Merci de votre fidélité et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Et pour ouvrir ce numéro des papous dans la tête, une histoire tout en SMS, elle est imaginée par Lucas Fournier. Armé de son mobile, il textote comme un fou. Il y aurait urgence. Quelle est la situation, Lucas ?
Je suis le patron d'une entreprise et j'ai une partie du personnel qui est mécontent.
Donc vous êtes à l'usine, dans l'entreprise ?
Enfin, c'est pas une usine, je suis le directeur du zoo de Vincennes.
Ah.
Une partie significative du personnel a décidé de me séquestrer.
Oh non.
Si, et donc là, j'alerte ma hiérarchie et en l'espèce, vu l'importance de l'événement, c'est le ministre de l'Intérieur que je dérange personnellement. 10h. Monsieur le ministre, je sais que le Conseil des ministres vient de commencer et que vous ne pouvez pas parler. Je suis actuellement retenu dans la cage aux fauves. Je vais tenter de dialoguer. J'espère que ce ne sera pas trop saignant. 10h10. Monsieur le ministre, merci de votre message de solidarité. La hyène vient de me faire part de la revendication des carnivores du zoo. Ils veulent manger bio. Qu'est-ce que je leur dis ? 10h15. Monsieur le ministre, je veux bien faire part au Lyon du soutien du ministre de l'écologie pour leur démarche de bioqualité, mais je ne suis pas sûr que cela suffise. Je préférerais un feu vert officiel pour que je puisse sortir de cette cage. 10h16. Monsieur le ministre, quand vous m'écrivez que ça va nous coûter un bras, qu'est-ce que vous entendez par là ? 10h30, monsieur le ministre, 6 lions adultes, 1 mâle, 3 hyènes, 4 panthères, 2 jaguars, 3 tigres, cela sent un peu le fauve. Si vous pouviez accélérer la procédure, ce serait bien. 10h45, monsieur le ministre, moi aussi je suis pour le dialogue social, mais ça va m'être difficile de leur expliquer qu'il faut attendre la fin du Conseil des ministres, 12h30, pour avoir une réponse. Le repas des fauves est à midi et je ne les sens pas du tout prêts au compromis. 11h. Je n'aime pas du tout la façon dont la tigresse me regarde. Mais je lui ferai part du soutien du ministère de l'Agriculture, oui. 11h01. Monsieur le ministre, la lionne est en train de me lécher la joue. J'ai un peu l'impression d'être un gâteau apéritif que l'on susote avant de croquer dedans. 11h05. Les deux crocodiles et le boa du reptilium rejoignent le mouvement. Ils veulent eux aussi des poulets vivants, élevés en plein air et issus de l'agriculture biologique. 11h10. Monsieur le ministre, vous ne répondez pas ? Il reste trois quarts d'heure avant le repas des fauves. 11h12. Oui, je leur dirai aussi que la Confédération paysanne soutient leur demande et UFC Que Choisir aussi, oui. Mais à part le dialogue, vous décidez quoi ? 11h15. Monsieur le ministre, les télés sont là, même CNN. 11h15 et 10 secondes. Ah ! Si la télé est là, vous venez, alors dépêchez-vous. 11h20. Mais le 13h en direct, ce sera trop tard. Les lions mangent à midi. J'ai la panthère qui me hume depuis 5 minutes. 11h35. Mais vous m'envoyez quelqu'un tout de suite, mais qui ? Le GIGN, le RAID ? 11h40. Monsieur le ministre, moi aussi, je suis comme le gouvernement, je suis pour le dialogue républicain. Mais la hyène, ça la fait rigoler et les lions grondent. Oh, je vais pas tenir longtemps. 11h45, vite. 11h50, la voilà. Votre spécialiste est arrivé. 12h05. Merci, monsieur le ministre. Tout s'est bien terminé. Vous aviez raison, le dialogue est toujours payant. La naturopathe que vous nous avez envoyée pour expliquer aux fauves les bienfaits du régime vegan et végétarien a convaincu les lions et les tigres. Ils en ont repris deux fois. Vous pouvez faire votre 13h tranquille, je vais faire un tour du côté des éléphants et des buffles. Il paraît qu'ils ne veulent plus de fourrage OGM.
En France, on a des Rafales, on a des Airbus et on les vend à l'étranger, source de revenus importante. On devrait être content. Eh bien non, il y en a toujours un pour râler. Aujourd'hui, c'est Patrice Caumont, notre philosophe, aquarelliste distingué. Dès le matin, il est bougon. Et pourquoi, Patrice, racontez.
On se réveille un matin pour admirer la virginité de l'azur. Il y a quelque chose d'initial. Le bleu du ciel est originel. Les paysagistes, flamands ou anglais, ont toujours peint le ciel en premier. Et selon la Genèse, Dieu lui aussi aurait commencé par les cieux. L'immensité bleue est là pour nous donner une idée de l'infini. Nul nuage ne ponctue l'espace qui, dans un dégradé à peine perceptible, décline toutes les nuances de bleu pâle, du céruléum à l'outre-mer clair. Cette virginité céleste a quelque chose de métaphysique. Et soudain, troublant notre contemplation de ce plafond d'une Sixtine monochrome, surgit un trait de plume venu d'on ne sait où. Ça commence toujours par un tracé fin, une simple ligne droite, blanche sur fond bleu. Et puis le trait de l'esquisse s'épaissit, devient pâteux, lourd, disgracieux. Ça bave, ça déborde, et ça s'amplifie en se diluant tel l'aquarelle sur papier humide pour devenir floconneux, presque nuageux. Mais ce n'est pas un nuage, voilà le problème. C'est la tâche incongrue, obscène et iconoclaste de déjection d'un jet dont l'attitude à haute altitude est pour le moins sans gêne. Cet Airbus contre Phébus, mais ce char ailé dont l'énergie n'est pas solaire, déroule un sillage boueux. Un avion, ça trace, mais ça laisse aussi des traces. Cet échappement blasphématoire est une double pollution, celle du kérosène et celle de notre regard. L'aéronef n'est pas tout bénef, et les avions de ligne portent bien leur nom. Alors il faut arrêter ces tirelignes dont la gouache dégouline dans le parfait lavis bleuté. Comme dirait La Fontaine, « Qui te rend si hardi de troubler ainsi mon paysage ? Car si ce n'est toi, Boeing, c'est donc ton frère, Airbus. » Oui, comment peut-on laisser ces trublions volants rayer impunément l'azur d'un coup de pinceau laiteux ? Imaginez la consternation d'un constable ou d'un Monet devant l'atroce traînée d'escargots volants, cette bave de limaces à réaction, cette coulée de fientes de pigeons planants. Les compagnies dites aériennes sont plutôt de mauvaises compagnies, car elles n'ont rien d'aérien, les coulures de pinceaux des gros porteurs. Gros porteurs, gros port tout court, car ce sont des vers à ailés, des truies à réaction, échappés de l'aéroporcherie où ils se baugent. Comment osent-ils taguer mon ciel, bomber leur voie aussi rectiligne qu'une romaine mais plus laiteuse que lactée ? On devrait les attaquer pour vandalisme avec récidive, visant la destruction volontaire et délibérée de l'harmonie universelle. C'est la bombe sur le bleu de cobalt. C'est pas du jet lag, c'est du jet tag. Et puis ça se complique. Ils s'amusent à faire des parallèles, à créer des angles et même des croix. Rayures, bifures, griffures, ils nous scarifient la voûte. Par superposition de bandes en écheveau, ces iconoclastes font des sillons de patinoire au plafond. Comme le saphir raye le disque, ces barbouilleurs rayent notre saphir céleste. Ce sont des lignes de fuite délirantes. La perspective d'un Alberti devenu fou, d'un Escher atmosphérique. On dirait un Mikado de traits de craie au tableau d'un prof de géométrie parkinsonien. La diagonale du fou multipliée. Une toile d'araignée dyslexique, c'est l'araignée au plafond. Aiguilleur à tricoter le ciel, il file la laine d'un fuseau d'horreur et l'enchevêtre. Tantôt on dirait un ruban plat déroulé par une parque psychorigide, tantôt c'est un gribouillis rageur d'aliénés. À la manière d'Artung, il s'acharde à lacérer la toile du ciel. Comment peut-on laisser ces vauriens profaner le bleu ? C'est jeter du yaourt sur un monochrome de Klein. Certains soirs, le ciel est littéralement couvert de croisillons. L'infini se retrouve derrière les barreaux. On veut le bleu du ciel de bataille, mais pas un ciel en bataille d'Uccello, hérissé de lances aux angles aléatoires. Jusqu'à quand, enfin, ces sales vandales vont-ils impunément polluer nos cieux, barbouiller la céleste voûte et grillager l'azur ? Il n'y a plus que par temps couvert que le ciel redevient lui-même. La brume voile leurs méfaits et les nuages tendent un pudique paravent pour dissimuler l'alignement des privautés obscènes de ces fiefés pigeons fianteurs. Stop aux salisseurs d'immaculés. Arrêtons ces taggeurs sans inspiration, partisans de la ligne claire, peut-être, mais surtout droite, ou qu'on leur impose des courbes qui, diluées dans l'atmosphère, donneraient des arabesques de Matisse. Ces héritiers de Saint-Exupéry devraient soit nous dessiner un moutonneux nuage, soit s'en tenir au vol de nuit. Car l'étirement sans fin de leur boudin floconneux est un supplice quotidien pour l'œil, à l'exception des jours de grève. D'un continent à l'autre, ces icares incontinents se laissent aller à leur déjection abjecte. De là-haut, leur mixtion infâme dégouline à plein jet de jets. Il faudrait les torcher, leur mettre des couches-culottes. Il n'y a plus de ciel pur. Exit le ciel si bleu, si calme, et l'arbre qui berce sa palme. Exit Verlaine. Maintenant, le ciel qu'on voit se perce de napalm. Qu'ont-ils fait, eux, que voilà dans le ciel qu'on voit, de leur vitesse, un long convoi à 10 000 pieds de là. Exit le firmament simple et tranquille. Le ciel est défoncé à grands coups de lignes de coque blanche. On a la Sixtine qu'on mérite.
Il n'est pas content, hein, il n'est pas content. Qu'est-ce que vous en pensez, Odile, de ce problème?
Mais je pense que il y a une solution qui existe, en fait, c'est l'avion balai, qui a été inventé par Plonk et Replonk, les Suisses. Donc c'est un avion avec un balai qui efface les traces.
Ah, c'est pas mal. C'est comme la voiture balai dans le Tour de France.
Absolument.
Exactement. Jacques Jouet, vous avez un point de vue sur les traces laissées dans le ciel par les avions?
J'ai dû étudier la question.
Ah bon,
car vous êtes concerné? Je suis conseiller art plastique à l'UNESCO.
Oui.
Et monsieur le secrétaire général m'a demandé un rapport suite à diverses plaintes convergentes sur, je cite, le vandalisme de la voûte céleste considérée dans sa dimension esthétique. Et le texte que nous avons entendu est au cœur de cette affaire. Voilà mon rapport. La situation est embarrassante, car il y a quelque temps de ça, les compagnies aériennes, renonçant pour une fois à leur esprit de concurrence, s'étaient unies pour demander des subventions publiques, sous le prétexte justement qu'elles réalisaient à leurs frais des œuvres plastiques à caractère monumental. Bien conseillées, elles arguaient du fait que le gros problème avec les œuvres monumentales est qu'on ne sait jamais où les ranger une fois l'exposition terminée. Avec les dessins d'échappement de kérosène, le caractère éphémère était un plus, qui en outre allait bien dans le sens d'une dissémination de l'œuvre d'art dans le pur souvenir d'une potentialité. Les arguments avaient frappé juste et les compagnies aériennes avaient obtenu un sérieux taux de subventionnement de divers ministères de la culture ou des beaux-arts, voire de certaines biennales parmi les plus prestigieuses, Venise, Cassel, la Documenta, au prix de dévier un tant soit peu les couloirs aériens au moment des vernissages. Je précise que sans ces subventionnements, les compagnies aériennes qui traversent, vous le savez, bien des zones de turbulence aurait peut-être dû mettre la clé sous la porte, ce qui n'eût pas été sans conséquence sur le plan social. En un mot commençant, il me paraît difficile aujourd'hui de faire machine arrière sur ces opérations en partenariat, synergiques, gagnant-gagnant, dans lesquelles tant d'institutions et d'entreprises trouvent leur compte. Reste la question esthétique qui a été posée par Patrice Caumont, pour ne citer que le plus convaincant de ceux qui se sont risqués sur ce terrain. Je ne disconviens pas que l'éventail des styles pratiqués par nos crayons volants ne dispose pas d'une ouverture bien large. Le plus court chemin d'un aéroport à un autre, m'ont confirmé tous les experts, est et reste la ligne droite. Et la conjoncture actuelle ne paraît pas aller dans le sens de vol à volute, à boucle et à nœuds, qui n'ont guère de réalité que dans les meetings aériens avec biplans qui ne laissent pas derrière eux de traces blanches. Je ne peux en conséquence achever ce rapport, dont je vous remercie de m'avoir confié la rédaction, que par une réflexion négative que vous me pardonnerez d'exprimer par une expression populaire. C'est un démerdable. En tout cas pour le moment. À moins que l'UNESCO se donne les moyens de lancer un appel à projet auprès des meilleurs plasticiens contemporains. Mais pour cela, il nous faudrait un André Malraux qui dirait « Chagall, reviens !» Mais il y aurait de toute façon un problème de surdimensionnement. C'est un démerdable.
C'est sans appel, Patrice Caumont.
Ya viene el negro zumbón, bailando alegre el bayón. Repica la zumbomba, llama la mujer. Ya viene el negro zumbón, bailando alegre el bayón. repica la zambomba, llama la mujer. Tengo ganas de bailar a nuevo compás, dicen todos cuando me ven pasar. Chica, ¿dónde vas? Me voy para bailar el bayón. Tengo ganas de bailar a nuevo compás, dicen todos cuando me ven pasar. Chica, ¿dónde vas? Me voy para bailar el bayón. Ya viene el negro zumbón, bailando alegre el bayón. Repica la zumbomba, llama a la mujer. Ya viene el negro zumbón, bailando alegre el bayón. Repica la zumbomba, llama a la mujer. Tengo ganas de bailar al nuevo compás, dicen todos cuando me ven pasar. Chica, ¿dónde vas? Me voy para bailar el bayón. Tengo ganas de bailar el nuevo compás, dicen todos cuando me ven pasar. Chica, ¿dónde vas? Me voy para bailar el bayón.
Rosemary Stanley.
Les papous, c'est aussi dans ma tête et sur France Culture.
Et dans toutes nos têtes, Jeanne. Pour une balade en dico, Eva Almassier-Jacques Jouet, rédacteur poète du jour. Notre dico, c'est le petit rimailleur illustré. Deux nouveaux mots feront leur entrée aujourd'hui aux lettres C et R à Jacques et Eva de choisir les formes versifiées. Ils ont absolument tous les droits. Octosyllabe alexandrin déca, mais pour les définitions, attention, ils seront surveillés par un contrôleur armé d'un dictionnaire classique pour vérifier si tous les sens y sont. Alors voilà, c'est à vous Eva Almassi, je vous ai confié le mot chat, c'est pas vous qui l'avez choisi, c'est moi qui vous l'ai imposé.
Ça m'a fait plaisir,
mais oui.
Comme un cadeau d'anniversaire pour les 10 mois de mon petit chat.
Qui s'appelle comment ?
Fifou.
Fifou, très bien. Alors Jacques Jouet, vous contrôlez Eva sur le chat, vous êtes au chat ?
Oui, je suis au chat.
Vous êtes arrivé très vite au chat. C'est un article.
Il faut tourner la page pour,
pour poursuivre
l'article.
Parce que le chat est partout.
Eh oui.
Donc il y a quand même sûrement pas mal d'expressions avec le chat.
Oh là là.
Et de jeux et tas de choses. Comment vous le traitez, Val Massy ?
Alors, voilà, il y a un petit chapeau, si vous voulez, d'introduction. Oui. J'aurais aimé m'inspirer de Colette, de Baudelaire. Viens, mon beau chat, sur mon cœur amoureux, retiens les griffes de ta patte et laisse-moi plonger dans tes beaux yeux, mêlés de métal et d'agate. Le problème, c'est que mon petit chat est venu et s'est étendu en travers de la page. Ah. Et comme ça, j'ai eu un co-auteur. Et il m'a imposé ce style, chaviro, ro tantacha, chami pataro, ro brula patacha. Et donc tout le poème de Rimailleur est dans ce style parce que j'avais.
Vous avez tout compris, Jacques Vallée.
Je n'ai pu écrire
que dans des marges assez étroites.
Et oui, dans les espaces qui restaient.
Qui restaient autour du chat.
Mais ça va être très intéressant, difficile à suivre pour Jacques Jouet.
Mais tout dans le style de chaviro, ro tantacha. Chat n'a qui chaton, mère chaton n'a téton, téton nourrit chaton, chaton devint matou chat ou miné minou, chat chat chat. Félin charme à homme, homme domestique à chat, chat sauvage tigre lion, homme miniaturisa, gouttière persan si à moi, chat chat chat. Chat allergie provoqua, docteur écrivit comme un chat, ordonnance gribouilla, valériane ou menta chat, patient angoissa, chat dans la gorge ne ravala, chat chat chat. Orme fleurit sol aussi, sur arbre chaton poussière et chaton de poussière sous le lit, enfant joua à chat, je tente à papa, maman proposa, jouons au chat et à la souris, chat chat chat. Pêcheur, poisson, chat, pêcha, ignorant donna sa langue au chat, langue au chat dans champagne trempa, chat à neuf queues, matelot corrigea, Danseur fit des sauts de chat, danseuse répliqua par entre chats, joyeux en chassa œil de chat, chaton de bague chatoya. Chat, chat, chat. Poète appela un chat, juge un chat fourré, greffier un greffier, client chat en poche acheta. Vous y êtes.
Ah non, je vois deux énormes rides barrer le front de chaque jouet.
Moi, j'ai un dictionnaire français, donc c'est...
il va pouvoir réécrire complètement.
Il faut un dictionnaire félin. La nuit fit gris tout chat, petite queue de chat, ciel ennuagea. Chattement, la chatte, chatta. Rat fuit chat, chat-huant vit rat, hibou abatté proie, photographe, œil de chat obtura. Clac, clac, chat, chat, chat. À qui la faute? Qui fit ça? Quoi? Ce poème, c'est le chat.
C'est très joli quand même.
Et il y a un petit
post-scriptum.
Le chat a 9 vies, il survivra.
Et 9 queues également.
Ah, ça y était.
Il chatta, oui. Si vous aviez dit il chatta, oui. Gérard aurait compris. J'ai vu lui aussi ses yeux se plisser sur le
il chatta.
Il paraît
qu'en parlant de la chatte, c'est mettre bas, chatter.
Ah bon?
Oui.
Ah bon? Ça, nous l'apprenons. Enfin, moi, personnellement. Lucas.
Je l'apprends aussi, mais après tout, on vèle, oui. Ou on agnelle.
Mais c'est donc, pour les vaches, ça.
Oui, et pour les moutons.
Et pour les
oui,
chats, les c'est rare.
Et les chats peuvent chatter.
Les chats ne vèlent pas. Les,
non,
les
elles
chattent.
Oui.
Et en plus, le mien chatte aussi, parce que le oui, chat et l'ordinateur, oui. C'est un autre chapitre.
Non, alors c'est drôle, si ça veut dire mettre bas, chatter, c'est drôle qu'on ait appelé les conversations le chat. C'est curieux. Dites-nous, Jacques Jouet, alors.
Mine de rien, il y avait beaucoup de choses.
Miné de rien.
Miné de rien.
Ah, dommage, Patrice Miné ne joue pas à ce jeu, oui.
Alors, on pourrait souhaiter que le dictionnaire emprunte quelques citations, plutôt au poème d'Eva qu'à...
Parce qu'elles sont pauvres.
Oh là là, qu'à Daudet. Pas un chat dans les rues du village, Daudet.
Ça, c'est Tarascon, oui. Tarascon, dimanche après-midi. Je confirme.
Non, c'est pas possible.
Il y a des sens oubliés dans ce que vous avez compris d'Eva?
Non, il n'y a aucun sens oublié. Alors en plus, là, dans le dictionnaire, on a chatte, sexe de la femme, avec une citation de Jean. Lisa était une fille normale avec une chatte et des nichons.
Ah, oh, c'est intéressant.
Ouais, c'est du Jean, ah, hein. Oui. C'est, ouais. Ça lui ressemble. On a fait le tour du chat?
On pourrait rêver d'autres citations, peut-être, non?
Oui, absolument. Est-ce que Gérard Mordia en aurait une vraie fausse?
Oui, j'ai une citation qui vient d'une réponse de François Mauriac à Jean-Paul Sartre. Oui. Il vaut mieux avoir un chat dans la gorge qu'être un chien dans un jeu de quilles.
Bah, oui, évidemment. Évidemment, et Lucas Fournier.
Moi, j'en ai une d'Albert Camus. Mm-hmm. Aujourd'hui, le petit chat est mort.
Le petit Rimailleur illustré suite avec un deuxième mot au programme dont vous voulez, Jacques Jouet, poéter la définition, mais vous ne voulez pas nous dire lequel. Vous ne l'avez dit qu'à votre contrôleur, Gérard Mordillard. C'est normal, parce que Gérard
même
va
pas.
Vous contrôler. Même pas. Bah si, regardez, écoutez, il est dans
le dictionnaire. Moi, je prends n'importe quel mot au hasard et je contrôle Jacques Jouet sur n'importe quel mot. C'est ça qui m'aime.
Non, il suffit de trouver un mot poétique, comme il est poète, et on tombe sur du Jacques Jouet.
Voilà.
Ah oui, pas bête. Alors.
Je ne peux vous le dire, ce n'est pas un crime. Car j'ai tout oublié en quittant ma maison. Je m'en allais trop tôt avant que ça s'imprime, et je suis sans mon texte. Ah là là, trahison. Vraiment, je suis mari, c'est presque la déprime. Le cyanure me tente, ou bien la pendaison. Car j'avais travaillé. Non, c'est pas de la frime. Un petit rimailleur de dessous le gazon. Sur quel mot, alors là, vraiment, ça se périme. En vitesse grand V la mémoire. Causons. Oui, je vais retrouver. Il faut que je m'escrime à remettre la main sur la mémoraison. Était-ce un rimailleur à propos du Gulf Stream? Non, je ne le crois pas. Ni sur la floraison du précaire labeur dont est plein l'intérim. Était-ce une épopée sur les 4 saisons? Sur Verlaine ou Marot? Sur un conte de Grimm? Sur la mythologie, sur Créon, sur Jason. Mais vous pourriez m'aider, le temps que je m'exprime. Vous pourriez déboucher enfin mon horizon, plutôt que ce silence accablant qui m'opprime. et retrouver pour moi cette démangeaison que moque qui déjà ? Oui, Alceste qui brime ce pauvre rimailleur chez Molière en raison de sa mauvaise humeur et mufleurie en rime. Ah, que c'est agaçant cette péroraison. Riez donc avec moi et nous dirons, nous rimes. Pas si simple de rire en sa conjugaison. Ah, mais voilà, c'est ça le sujet, c'est la rime.
C'est très 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 joli. Gérard.
Eh bien, oui, c'est disons une sorte de circumnavigation autour du mot rime.
Oui, bah oui.
Et donc ça marche très bien. Il y a plein de choses parce que rime, c'est pas très long comme définition, mais ça parle par exemple des assonances, des mots employés pour la rime. Des rimes riches pour les riches, des rimes pauvres pour les pauvres. Et puis, surtout, et c'est très charmant, les rimes féminines et les rimes masculines qui sont des histoires d'amour poétiques. Il y a aussi, et là, ça nous parle du physique, les rimes plates et les rimes croisées, un peu comme les soutiens-gorge qui sont des cœurs croisés.
Bien, et merci. Puis,
non, mais il y en a qui ne pensent qu'à ça. Hein.
Et puis il y a, alors ça j'aime beaucoup ça, les rimes embrassées.
Ouais,
et
oui.
Parce que ça, c'est quand même magnifique de prendre un poète et d'embrasser ses rimes.
Mais quelle est la définition du mot rime ?
Disposition de son identique à la finale de mots placés à la fin de deux unités rythmiques.
Oh merde, ça valait la peine.
Ah oui, oui, c'est très austère.
Ah, c'est très austère.
Un mot aussi charmant.
Mais alors là, des citations, il y en a.
Allez-y.
Tant qu'on
Mais je
veut.
Demande à être contrôlé sur le dictionnaire de rimes et pas sur le dictionnaire de langue, car j'ai utilisé toutes les rimes du mot rime.
Oui, oui, oui.
Alors, rimes qui donnent leur son aux chansons. Sainte-Beuve.
Mmh. Oui.
Nous pourrons jamais secouer le joug de la rime. Elle est essentielle à la poésie française. Voltaire. Oh, qui dira les torts de la rime ? Verlaine.
Oui, voilà. il y a du bon monde quand même.
Voilà. Oui. Verlaine qui disait une chose magnifique, qui disait à propos des vers que les vers doivent être roulés comme du boudin.
Moi, j'aimerais bien entendre tous les mots qui rimaient avec rime, Jacques Jouet. Parce que je pense que ça fait un très joli poème aussi.
Crime, imprime, déprime, frime, périme, escrime, gulfstream, intérim, grime, exprime, opprime, brime, prime, rime, rime.
Très très joli. Quel est le mot que vous trouvez le plus joli avec cette rime ?
Intérim.
Ah bon ?
Parce qu'il n'est pas dans le dictionnaire de rime, parce que c'est une rime masculine. Mais...
Oui, mais Gulfstream y est.
Ah oui, non, pas du tout.
Non, il me semblait bien, oui. Est-ce que quelqu'un aurait une vraie fausse citation sur le mot rime ?
Oui, j'en ai une.
Jacques Vallée ?
Oui, et je vais l'attribuer à celui qui a été plusieurs fois cité dans le poème et par le contrôleur, c'est à Verlaine.
Oui.
Quand j'étais pauvre, je rêvais de rimes riches.
Très beau.
Et vous, Lucas Fournier ?
Moi, j'ai presque la même de Donald Trump.
Ah.
Cadillac et Montbazillac sont deux rimes riches.
J'aime la vie quand elle rime à quelque chose. J'aime les épines quand elles riment avec la rose. J'aimerais même la mort si j'en sais la cause. Rime ou prose.
J'aime ma chanson quand elle rime avec ta bouche. Comme les blondes de Paris avec bâton dans les chats. Et la perle de pleurs avec l'ail de nous. J'aime les manèges quand ils riment avec la neige. J'aime les nains qui riment avec Blanche-Neige. Rimons, rimons tous les deux. Rimons, rimons si tu veux. Même si c'est pas des rimes riches, à rimons, nous on s'en fiche. J'aime les manèges quand ils riment avec la neige. J'aime les nains qui riment avec Blanche-Neige. Rimons, rimons tous les deux. Rimons, rimons si tu veux. Même si c'est pas des rimes riches.
J'aime la vie quand elle rime à quelque chose.
J'aime les épines quand elle rime avec la
rose. Rimons, rimons tous les deux. Rimons, rimons si tu veux. J'aimerais même la mort si je sais la cause.
Rime, Nougaro, version tombée du ciel. Vous êtes bien sur France Culture et vous écoutez Les Papous dans la tête. Au micro, Françoise Tressart et la bande des Papous du jour à suivre. Jusqu'à 13h58, une nouvelle candidature à la primaire, celle de Serge Oncourt, et un saut pour jouer dans le monde des onomatopées japonaises ou impressifs avec Véronique Brindeau, Lucas Fournier et Jean-Bernard Puy. Donc Serge Oncourt, dont on parle tant en ce moment et pour une bonne raison, son livre « Repose-toi sur moi » est un pur délice. Serge Oncourt, figurez-vous, il a aussi d'autres ambitions. Serge, vous avez le profil, vous seriez, vous êtes même, candidat à la primaire.
Oui, alors si vous voulez, ce qui est intéressant quand on annonce sa candidature, c'est que vous posiez la question un peu différemment.
Oui, c'est-à-dire
Est-ce que vous serez candidat à la primaire, c'est ça?
Alors,
c'est ça, parce que moi j'ai répété dans ma salle de bain.
Alors, Serge Oncourt, est-ce que vous serez vous aussi candidat à la primaire?
Eh bien, après réflexion, oui, je serai candidat.
Très bien, voilà. On est fort contents.
Non, j'ai répété avec ma femme depuis 15 jours.
Et est-ce qu'en plus vous avez un programme?
Je serai candidat.
Oui.
Oui, je vous le dis, Mme Françoise, je serai candidat.
Oui, mais encore.
Mes chers concitoyens, Françaises, Français, mes chers copropriétaires, vous connaissez cette passion qui est la mienne depuis toujours pour notre immeuble, pour notre hall, pour ses parties communes et nos trois escaliers? Parce que oui, cet immeuble, je suis candidat à la primaire, à la présidence des assemblées générales des copropriétaires.
Mais des copropriétaires du quartier ou...
Non, de l'immeuble simplement.
Juste l'immeuble.
Oui, mais enfin, c'est un immeuble conflictuel, donc il y a plusieurs listes.
D'accord, ah oui.
Cet immeuble, ce quartier, ces escaliers, c'est ma vie, c'est mon monde. Enfant déjà, je poussais mes trottinettes dans les rues tristes et non rénovées du pâté de maison d'alors. J'y aurais appris à marcher, à rêver... Qui d'entre vous, mes frères, oui, enfin, non, peut-être pas, qui d'entre vous, mes chers concitoyens
concicopropriétaires,
concicopropriétaires, oui, qui d'autre peut en dire autant? J'ai sur vous tous cet avantage, ce privilège d'être le plus ancien, oh, certes pas en âge, du moins pas encore, mais en tant que président, en tant que résident, qu'occupant de notre bon immeuble. Cet immeuble, cet ancien hôtel particulier du XVIIe siècle.
J'ai compris. Mais c'est toujours bien de préciser que c'est pas l'arrondissement.
Voilà.
Parce qu'on peut aussi bien être ailleurs qu'à Paris. Avec Paris dans la France, oui.
En copropriétaire, vous voulez dire, on peut être...
Oui,
en province aussi.
À la campagne aussi. Oui, ça existe à Pau, partout, Toulouse.
Vous voulez dire que mes parents...
Même à la Malou-les-Bains, il y a des copropriétés.
Mes parents, ils seraient copropriétaires de leur ferme, ça, il faudra qu'on en parle.
C'est possible.
Il va falloir travailler les répartitions. Eh bien, cet ancien immeuble du 17e, sauvé par la bonne grâce de ce bon André Malraux, hein, qui le connaît mieux que moi? Qui parmi vous, piètres opposants, qui saurait dire comme ça à l'aveugle: où sont les fusibles du circuit électrique pour déclipser le code d'entrée? Qui saurait dire dans quel recoin de la cave sont les robinets quart de tour d'arrivée d'eau générale? Et d'ailleurs, qui d'entre vous, qui sait réellement ce que c'est qu'un robinet?
Quart de tour, oui.
Quart de tour à tête céramique, hein? Ouais, ben oui. Qui d'autre saurait détecter une rayure de la sphère acier sur le coupe-circuit à boisseau sphérique? Je vous le demande. Personne. Je ne vous entends plus. Je ne vous entends plus. Alors on en est là. Alors même que vous ignorez tout du cadastre, alors même que pour la plupart d'entre vous, vous n'êtes là que depuis 2, voire 5, voire 10 ans, toujours pas à jour de crédit, vous me faites cependant l'affront d'en passer par une primaire, à liste uninominale à un tour, avant de se lancer dans la course officielle à la présidence de l'Assemblée de syndic. Mais quelle honte! Quel odieux procédurier vous êtes! Quel tortueux voisin! Oui, ça...
Vous êtes énervé.
Alors, soit... Au-delà des relations de bon voisinage, à l'humain entendement, lançons-nous dans des procédures concrètes. Établissons des élections à la régulière. Je ne peux pas de fait m'arroger le droit de vous présider, au seul prétexte de mes capacités.
Non, ce serait trop facile.
D'autant qu'aux yeux de la plupart d'entre vous, je le sens bien, je ne serai jamais qu'un sans grade, un vulgaire résident de l'escalier C. C'est le maudit, Le sans-ascenseur.
C'est celui qui est dans la cour banni. Au fond.
Oui. 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 Ah bah, vous êtes déjà...
Non. Je suis déjà venu dans l'immeuble, oui.
Alors oui, mesdames et messieurs de l'escalier A. Oui, mesdames et messieurs de l'escalier B. Vous les illustres, avec vos fenêtres à balcon et vos escaliers à grande volée. Je ne pèse pas lourd au regard de vos prodigieux millièmes. Bien sûr, vous m'écrasez de vos superficies, mais qu'importe. Je n'ai jamais craint de défier les puissants, les marquis des étages nobles, les grands ducs dégagés, les ceux qui montent chez eux en appuyant sur un bouton. C'est dégueulasse. Vous la voulez, la lutte des classes? Eh bien, vous l'aurez. Je vous le dis tout net. Considérez dès lors que ma candidature est posée et que je vous affronte en tant que bien humble représentant de l'aile gauche. En rentrant, parce que... En sortant...
Oui, il y a deux escaliers dans la cour.
Oui, en rentrant. Oui. Moi donc, en tant que représentant de l'aile gauche, dès lors, je vous l'annonce, par souci d'équité, bien plus que par manœuvre opportuniste, dès ce jour, je tends la main à l'extrême gauche.
Et il y a quoi à l'extrême gauche?
Je veux parler des 2 millièmes de la studette de Madame Suchet. Près du local à poubelle. De même que je tends la main au local à poubelle lui-même. Actez que ces 3 millièmes se rallient de fait à ma candidature. De même que les parties communes, le local à vélo et le placard à balai, car on n'en parle jamais de cela.
Mais pourquoi ce seraient les vôtres? Jamais.
Enfin, non, mais
attendez, ah non, mais je ne veux pas vous déranger, mais...
Enfin, bon, vous habitez l'immeuble?
Non, je ne suis pas loin, je suis déjà venu.
Oui, d'accord.
Non.
Alors, bon, écoutez, on ratisse large.
Vous n'avez pas de millième?
Non, je n'ai pas de millième.
Bon, ben voilà, on cherche les alliés. Le local à vélo, le placard à balai, car on n'en parle jamais de cela. Jamais on évoque l'obscurité de leur sort et les défaillances de leur minuterie. Et même si à jour, le placard à balai n'est toujours pas habité, il n'empêche qu'au rythme où vont les choses à Paris, il le sera un jour. Oh, comme la dernière fois, j'entends d'avance vos colibés. Je vous entends déjà m'affubler de l'étiquette d'opposant de bas étage, de Robespierre du rez-de-chaussée. Évidemment, vous autres, les marquis de l'étage noble, avec vos moulures en plate et vos garde-corps ouvragés, je n'ignore pas que vous avez sur moi l'avantage des périmètres, l'amplitude des mètres carrés à 3 chiffres. Ça, ça pèse dans la balance. Au moment de voter, ça pèse. Ben oui. Mais je vous le redis, je vais tenter l'affect. Hein. Mmh. Ouais. Mais je vous le redis, moi seul ai vu grandir cet immeuble. Moi seul l'ai vu pousser dans la puanteur céleste du marais d'avant la loi Malraux et du baron Haussmann. Moi seul ici ai chevauché les siècles dans la pérennité des pierres éteintes. Entre ici! Entre ici, courant d'air! Avec ton terrible cortège de feuilles mortes et de mégots poussés par le vent des rues. Oui, à ce propos, il faudra réviser l'étanchéité des soubassements de la porte cochère. Hein, parce qu'il y a...
Ah oui, ça passe.
Oui, ça passe. Mais ouais. Ça passe. Oui. D'autant qu'il y a aussi les écluses de refoulement depuis le...
Les depuis d'en la face. Crue.
Depuis la crue, tout à fait. Oui, ne vous en déplaise, je suis le plus digne représentant des lieux. Car l'acte de propriété de ma studette est dans la famille depuis les années 30.
Ah, juste une studette, ah ouais.
Non, les années 30.
Oui, oui. C'est ça ce qui est important.
Oui, mais on ne sait plus de quel siècle. Oui. C'est ça. Tenez-vous le pour dit, bande de novices, la légitimité de la mainmise sur les millièmes environnants vient de l'antécédent généalogique du résident et non de l'arithmétique de la loi carrée. C'est moi qui l'ai porté, cet immeuble, comme mes parents l'ont fait et mes grands-parents avant moi. À l'époque, nous n'avions pas tous l'électricité et l'éclairage urbain n'était pas ce qu'il était. À l'époque, dans le marais, on voyait encore des voitures à cheval et des carrosses et des marchandes de 4 saisons qui s'épuisaient à pousser leurs carrioles depuis les halles bâtards. Les ridelles gavées de tomates fraîches, d'aubergines et de concombres et même dans les heures les plus noires de rutabaga et de topinambour. Ah oui. Vous n'y pouvez rien. J'ai sur vous tous cet ascendant conféré par l'histoire. J'étais là avant vous.
Ouais, c'est la primauté de l'ancien, oui, quoi. Oui.
Bon, pour mémoire, ce studio que j'occupe aujourd'hui est dans la famille depuis l'époque où Balzac lui-même n'était qu'un impécunieux voisin de la rue des Sdiguères. Victor Hugo, depuis sa place royale, n'avait pas encore voyagé. Musset, Baudelaire, Bossuet et Rabutin Chantal n'étaient même pas nés. Bossuet, je vous le rappelle, habitait l'immeuble d'à côté, le 12, avant d'aller à l'église Saint-Paul. Et pour être honnête, je l'ai personnellement assez peu connu.
Oui.
Mais il n'empêche que chaque fois qu'il croisait mon arrière-arrière-arrière-grand-mère, il l'honorait d'un salut courtois de la main qu'elle prenait chaque fois pour une bénédiction. Et Simenon, et Sardou.
Michel ? Non, Victorien, bien sûr.
Victorien, pas les faux. Et qui d'autre encore ? En somme, vous voulez toute la liste de mes soutiens, toutes ces personnalités qui se sont prononcées en ma faveur ?
Oui.
Hein, parce que des soutiens, il en faut. Vous avez mieux que ça, vous, Bossuet, Rabutin?
Vous avez quelqu'un de mieux, Lucas
non,
Fournier?
Non, c'est à moi non. La parole. Alors, actez donc à compter de ce jour, je postule à la présidence, vous l'aurez compris, de l'Assemblée générale des copropriétaires. Je brique donc le perchoir. Ce ne sont pas des fonctions que l'on prend à la légère comme ministre ou sous-préfet. Moi, mesdames et messieurs, c'est tous les matins en me rasant que j'y pense. Et même si depuis 20 ans, je porte la barbe, il n'empêche que tous les matins, j'y pense. Oui, tous les matins, j'y pense. Oh, ne faites pas semblant de l'ignorer, mais vous le savez bien. C'est moi qui, dès 6 heures le matin, suis sur le pont, enfin sur le trottoir, à guetter l'agent d'entretien et sa camionnette blanche pour veiller au bon déroulement de la sortie de poubelle. Le couvercle jaune, tous les jeudis, le bleu, les jours impairs, et la poubelle verte.
Le vendredi.
Oui.
Le vendredi, et la poubelle à verre.
Une fois par mois.
Chaque fois que ça fait du bruit. Alors, oui, pendant que certains d'entre vous dorment encore, moi, à 6 heures, je cornaque Roberto dans le concert d'Ébène. Roberto, ce soi-disant polonais à l'accent exotique qui nous prend tous pour des Anglais. Ce profiteur trop bien payé dont les émoluments vous scandalisent chaque fois que vous ouvrez l'enveloppe de vos récapitulatifs de charges. Enfin, je ne vais pas là vous accabler par le rapport de mes responsabilités, mais sachez qu'à midi pétante, à midi tous les jours, chaque fois que le soleil passe au zénith, au-dessus de vos têtes aveugles, nuages ou pas, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, à midi je suis à nouveau sur le pont devant la porte cochère pour veiller à ce que Roberto rentre bien. Cette fois, nos trois poubelles, et dans l'ordre, sans en oublier une, afin que l'agent de la voirie ne nous colle pas une prune pour empêchement de circulation.
Ah bon ? Ah oui ?
Défaut de passage sur la voie publique.
Oui.
35 euros. Alors, mon programme en trois points. Très court. Premièrement, suppression de l'ascenseur social. Il n'est pas normal que certains montent toujours à pied et que cela fasse les frais des révisions des élévateurs des élites aéroportées.
C'est vrai.
Des
escaliers. En plus, c'est vrai, ça. Oui. C'est,
ah.
Oui, c'est...
Vous voyez
hein? Ah non, non, mais ah oui, là, non, mais je suis d'accord, moi, bon. Oui.
Deuxièmement, interdiction de fumer aux fenêtres, et ce, quelle que soit l'heure. Non seulement ça dérange les palombes qui sont dans les arbres, mais en plus ça pue chez les habitants du dessus.
Du tout.
Du dessus. La fumée monte.
Oui, c'est... Oui.
Je vous le rappelle, la fumée monte dans notre quartier. Troisièmement, limitation de l'arrosage des balconnières. Ça, c'est mon engagement très concret pour mettre un terme au réchauffement climatique. Dans le cadre des nouvelles dispositions telles que définies par la COP21. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails.
Ouais.
Bon. Quatrièmement, obligation de canaliser l'eau de pluie et de la raccorder sur le lave-vaisselle.
Ouais,
COP21, c'est... toujours COP21.
Ça, c'est bien, oui.
Cinquièmement, interdiction... Alors ça, c'est par contre, ça, c'est très grave. Interdiction formelle de cadenasser son vélo en passant son câble par-dessus le mien. Car oui, quand on entasse les vélos, comme vous le faites tous sur le mur du fond... Dites-vous bien que le premier arrivé est rarement le dernier à repartir. Bon, que ce soit clair. Et enfin, dernier point, sixièmement, neutralisation définitive du Yorkshire de Madame Chalamin. Parce qu'on n'en peut plus de son Yuki, de ses couinements stupides dès lors que quelqu'un pousse le bâton de la porte cochère. Enfin bref, votez pour moi, pour qu'enfin la paix habite les immeubles habités. Sur ce, ministres intègres, je vous salue.
恋人と語り合う時はここがいいよ道端に並んだベンチが小金のいらない街角の赤いベンチで恋人たちは口づけする誰も見ていない時素早く小さな声で恥ずかしがらないで 心込めてお前が好きだよというのさ昔も今も恋はいつもベンチで打ち明けるものさ若い恋人たちはいつもささやくのさ昨日のこと明日のこと優しい目を見合わせながら語るベンチ くすぐるようなタバコの煙誰も見ていない時素早く小さな声で恥ずかしがらないで心を込めてお前が好きだよというのさ昔も今も恋はいつもベンチで打ち明けるものさ 二人の恋が燃えたつとき空は曇る そこで二人は抱き合うのさ恋人たちの夢を乗せて運ぶベンチ覗き込むのはミモザの花誰も見ていないとき素早く小さな声で恥ずかしがらないで心込めてお前が好きだよというのさ昔も今も恋はいつもベンチで打ち明けるものさ。
C'est joli, Brassens en japonais. Et c'était Koshigi Fubuki. Dernière séquence de ce numéro des Papous dans la tête, le jeu des impressifs. Un clin d'œil au Japon pour célébrer à notre façon le Koromage, qui signifie le jour du changement de tenue. C'est une fête au Japon le 1er octobre. Les employés passent des manches longues aux manches courtes, les enfants changent d'uniforme dans leurs écoles, quel que soit le temps. Et c'est une coutume instaurée à la cour impériale à l'ère Heian. Je suis pas sûre de l'accent. Heian. À l'époque, non seulement on fêtait le changement de tenue, mais aussi celui des accessoires. Les femmes de la cour devaient porter un éventail de papier et bambou en été, un éventail en cyprès l'hiver. Alors nous aussi, on change de tenue en octobre en général, mais on ne le fête pas et c'est dommage. Joyeux Koromage et un grand merci à Véronique Brindeau pour m'avoir fait découvrir cette coutume. Véronique Brindeau qui nous propose un nouvel impressif ou onomatopée, enfin nouveau pour nous, Shito Shito. Lucas Fournier, Jean-Bernard Puy, vous avez joué à lui donner un sens et vous avez retrouvé des traces de ce Shito Shito dans la littérature française, c'est-à-dire que vous avez imaginé des pastiches. C'est bien ça Jean-Bernard ?
Parfaitement, Françoise.
Donc, nous avons tous joué au même jeu, j'en suis contente. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, Shito Shito, Jean-Bernard Puy ?
Alors, en langue française, la traduction la plus simple serait acouphène.
Ah bon ?
Mais ça serait très très réducteur.
Ah, sûrement, oui.
Il faudrait dire acouphène, acouphène. Mais en français, ça ne marche pas. Bon. En langue japonaise, le terme est moins médical. Il est parfois poétique, en tout cas presque jamais associé à une quelconque maladie ou dysfonctionnement des oreilles. Ça peut être le rappel amusé d'un son ou d'un bruit particulier. On peut avoir dans les oreilles le chito-chito du merle longtemps dans la journée. De subir au matin toujours une chanson idiote peut vous amener à fredonner sans cesse le chito-chito de la chanson idiote. Je rappelle Annie Ernaux, par exemple. Dans un de ses livres, elle entend une chanson idiote de Sylvie Vartan.
Oui.
Si c'est possible, mais je crois que c'est possible. Et pour elle, c'est la plus belle chanson parce qu'elle va annoncer l'arrivée de son amant. Donc, le chito-chito peut être extrêmement bénéfique.
Bon.
Bien sûr, c'est aussi ces sifflements désagréables qui se produisent dans notre appareil auditif, mais que les Japonais désignent souvent comme d'intéressantes musiques intérieures.
Ah. C'est très beau, il y a tout ça dans Shito Shito, Véronique.
Alors, peut-être pas tout, hein, parce que c'est tout de même un programme très prometteur.
Oui.
Du côté de la persistance, il y a un indice très sûr. Oui.
Ah bon. Vous avez frôlé une vérité de Shito Shito, mais vous aviez le droit.
J'avais le droit de frôler, oui.
Oui. On peut avoir peut-être la définition de Lucas Fournier. Est-ce qu'il y a un petit rapport avec celle de Jean-Bernard Puy ?
Ben, très peu.
Très peu.
Vraiment très peu. Non, alors le shito-shito, c'est un concept rétrospectif ou ex post. Ça désigne un site touristique sublime et ignoré, hors des sentiers battus et des guides, connu de personne et qui exige des heures de marche et d'efforts pour y parvenir, et qui vous offre, une fois arrivé, le panneau, le phare est en réfection, fermeture annuelle, les ruines ne sont plus accessibles au public, ou, dans l'hypothèse où le monument ou le lieu n'est pas interdit, qui vous conduit face à une horde de touristes, alors japonais en l'espèce, ou une cohorte bruyante de membres d'un comité d'entreprise en goguette. La glorieuse incertitude du voyage est qu'on ne sait jamais quand on part si on aura affaire ou non à un shito-shito.
C'est beau, c'est un peu la quête du Graal, quoi. Et on n'est pas sûr.
Le shito-shito, c'est le Graal qui vous tombe sur la tête. Oui.
oui. Véronique.
C'est décevant, hein, Shito.
Alors, assez décevant. Alors que, oui, avec Jean-Bernard Pouy et Sylvie Vartan, c'était pas exaltant non plus, je dois dire.
Oh, ah. Du don.
Si, ah. Oui, ah. Oui. Ah, ce soir, je serai la plus belle.
Pour aller danser. C'est Annie Arnault qui ne sait pas la dernière roue du carrosse. Bon, je alors, me permets d'assister quand même.
Bon, alors je rends hommage à Sylvie Vartan.
Merci, bravo, s'il vous plaît.
Donc Shito est positif avec Jean-Bernard Pouy, légèrement décevant avec Lucas Fournier.
Alors je dirais qu'il y a une ambivalence dans Shito qu'on peut retrouver dans cette déception du monument tant désiré et finalement inaccessible. Il peut y avoir quelque chose d'un petit peu déplaisant dans le Shito.
Oui.
Mais c'est tout de même quelque chose d'apprécié. Ah. En général. À quelques exceptions près.
Ça a du goût et parfois c'est raté, quoi.
Ça a du goût et parfois c'est raté.
Oui, non, mais non, par exemple, une glace à la vanille, ouais, ça peut être délicieux. Puis parfois, bon, la vanille est synthétique et tout, et c'est chito, non.
Donc il peut y avoir une attente déçue, mais elle est quasi programmée.
Ah.
On peut avoir du goût et être raté. Ma grand-mère disait toujours, c'est raté, mais il n'y a que des bonnes choses dedans.
Bon, je crois que vous avez retrouvé des traces littéraires, Jean-Bernard Pouy, de votre définition de Shito, des grands écrivains.
C'est pas ma définition, c'est la définition.
Oui, non, d'accord. Oui, ne le contrarions pas.
J'ai trouvé du lourd, j'ai trouvé oui. José Maria de Heredia.
Ah, ah oui. Ah.
Quand même, je vous rappelle, 118 sonnets qui forment les trophées, oui. Qui datent de 1893, donc une période de japonisme exacerbé.
Oui.
Et donc, je vais vous lire le sonnet qui s'appelle Michel-Ange, qui est tiré de la sous-section La nature et le rêve.
Oui.
Certes, il était hanté d'un tragique tourment. Alors qu'à la Sixtine et loin de Rome en fête, solitaire, il peignait sibylles et prophètes, et sur le sombre mur, le dernier jugement. Je vais pas mettre un peu de joie dans ma voix, parce que là, c'est complètement sinistre.
Oh ben non, texte, c'est tragique, oui.
Il écoutait en lui pleurer obstinément, titan, que son désir enchaîne au plus haut fait. Shito obscur, lancinante défaite, ses cris désespérés et rire d'un dieu dément. Aussi ce lourd géant, là de sa force exsangue, cet esclave qui crie, qui se tord la langue, investit Michel-Ange d'une étrange façon. Dans le silence froid où bout son âme altière, résonne cette plainte. Avec un grand frisson, la colère d'un dieu vaincu par la matière.
C'est très très beau.
Le dernier
hein.
Vers est splendide.
Ah, mais Heredia, c'est toujours sublime.
Ah bon, oui, non, mais Heredia Pouy, enfin.
Oui, Heredia Pouy.
Le Shito obscur, ça, c'est plus Pouy que Heredia.
C'est dans le sonnet Michel-Ange. Ouais, bon,
le hiatu, c'est dur.
Shito obscur.
Oui,
c'est dur.
C'est un gros yato, hein.
Non, mais comme vous êtes sévère, qu'est-ce qu'elle pense de ce fragment d'Heredia où on retrouve Shito, Véronique Brindot?
En ce qui me concerne, j'étais très émue.
Oui.
C'est le caractère obstiné, lancinant, ça, oui. Moi qui ai vécu le Shito de près, hein, je peux vous le dire, il y a quelque chose de lancinant,
Il n'y a pas le sens, mais il y a l'impression, quoi.
Voilà, mais c'est tout de même un petit peu moins tragique que...
Ah bon, oui. C'est tragique, mais c'est pas tout à fait le même tragique. Hein. Il y en a un qui se situe dans les oreilles avec Jean-Bernard Pouy. Oui. Et l'autre, on ne sait pas encore au Japon, parce qu'elle ne nous a pas encore tout dit, Véronique. Mais on retrouve Lucas Fournier, qui a aussi des traces littéraires de son Shito. Alors, redites-nous en deux mots votre Shito. Shito ben signifie...
C'est le site touristique qui est rare et qui devient inaccessible.
Voilà.
Moi aussi, j'ai un poète.
Ah bon ?
Alors, ce n'est pas José Maria de Heredia, c'est un petit peu avant. C'est Jean de La Fontaine qui a écrit une petite fable que vous connaissez sans doute, qui s'appelle « La gargouille et l'escargot ».
Ce n'est pas la plus connue.
Eh bien, c'est dommage.
Elle gagne à l'être.
Oui, alors, c'est « L'escargot ayant gravi tout l'été un clocher de cathédrale se trouva fort dépité en y trouvant des vandales. Il alla crier scandale chez la gargouille du lieu. Qui les rend si hardis, ces visiteurs odieux, de troubler mon voyage ? Lui dit ce gastéropode plein de rage. La gargouille reste de pierre. C'est là son moindre défaut. Tandis que vous grimpiez la gouttière, dit-elle à notre escargot, les pèlerins prenaient l'ascenseur, sans effort et sans sueur. Mais j'en ai bavé, ne vous déplaise. Vous baviez, j'en suis fort aise. Eh bien, crachez maintenant. L'entrée, c'est 20 euros. L'escargot fulminant jura, mais un peu tard, qu'au rendez-vous des Chito-Chito, on ne l'y reprendrait pas de sitôt.
Oui, ça déclenche la rage quand même, le Chito-Chito, ah, chez oui. vous. Oui, hein. oui. oui, il y a cette impression de rage, de frustration totale, Véronique.
Alors, il y a un point commun très clair, mais il ne repose pas sur cette rage et ce sentiment pénible d'avoir été un peu roulé, en quelque sorte. Oui. C'est la pluie, tout simplement. Parce qu'entre un escargot et une gouttière, il y a un élément commun qui est l'humidité. Oui.
Voilà. Ah, et on retrouve dans le Chito-Chito japonais l'humide.
Certainement, oui.
Bon, d'autres traces, Jean-Bernard Pouilly, de votre... son Chito-Chito à l'oreille.
Oui, je ne pouvais pas oublier Pierre Loti quand même.
Ah oui. Ah bah, chez Pierre Loti, il y a de l'eau, il y a de l'eau aussi.
On ne peut pas oublier parce que, bon, dans la troisième jeunesse de Madame Prune, oui. qui date de 1900, et que Pierre Loti a écrit après un séjour à Nagasaki, avant évidemment l'explosion
oui.
atomique,
oui.
et avec sa fiancée du moment.
Avec sa fiancée du moment.
Oui, oui.
Avec sa fiancée du moment,
bah, l'un n'exclut pas l'autre.
Oui, il a le droit d'avoir des choix multiples. Non.
Mais il avait des fiancés également.
Il avait des fiancés, voilà. mais oui.
Alors, dites-nous.
C'est un extrait donc, de la troisième jeunesse de Madame Prune.
Oui.
Après la dinette japonaise, petite soupe aux algues, énigmatique et minuscule chose pour poupée d'un raffinement extrême, servie dans des porcelaines diaphanes, dans des lacs légères, presque impondérables. Étonnante pâtisserie, imitant des paysages, des sites de rêves nippons, rocailles en sucre brun, vieux sapins en pâte d'amande verdâtre, très délicatement feuillus. Ces dames, qui sont aux côtés et qui se font payer fort cher, consentirent à retirer de leurs étuis de crépons les longues guitares à voix de sauterelle et les spatules d'ivoire qui servent d'archet.
C'est beau ça.
Ah, c'est très très beau. Mais Pierre Loti écrivait merveilleusement.
Oui. Oh, elle se mira à chanter, comme de jeunes chats qui miauleraient le soir du haut d'un mur. Dans mes oreilles s'installa une autre musique, stridente, lancinante, et qui me venait de loin. Comme de mousmets se mettaient à chanter, à danser avec des masques divers, la danse de la goule et du héron, et celle de la grosse dame joufflue et bête, j'ai pensé alors que ces bruits de scie, ces crissements d'ongles sur la glace, ce Chito-Chito inquiétant me venait d'un soir ancien où de jeunes geishas musiciennes, en pratiquant la danse du miso, le pas de la source, que mademoiselle Louis d'Avril m'avait fait connaître dans la maison de la cigogne au plumage d'or, avaient malmené pendant 2 heures pleines leurs coteaux, alors que nous ne pouvions absolument pas bouger, restant aussi imperturbables que des cèdres. Le temps du thé a passé, dans cette blanche et noire solitude, et les musiciennes sont évanouies derrière de petits cerisiers en fleurs. Dans ma tête, la musique atroce s'est calmée peu à peu, puis un mur a glissé, feulement de l'envol du héron blanc.
C'est trop beau. Alors, si vous n'étiez pas aussi jeune, Jean-Bernard Pouilly, moi, je penserais que c'est vous qui avez écrit tous les Pierre Loti que j'ai lus.
Non, vous m'avez demandé de chercher des Chito-Chito dans la littérature, j'en ai trouvé, c'est tout.
Mais oui, oui.
J'ai jamais écrit Chito-Chito dans mes œuvres.
Plutôt plus
je vais
tard,
y mettre, oui. sérieusement.
Chito-Chito, ah, c'est très drôle, Serge. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de ce Pierre Loti, là, Serge ?
Non, mais je suis fasciné, j'ai plein de questions à lui poser. Déjà, la danse du miso, j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble.
Il appelle ça la danse du miso. Et puis, c'est-à-dire le pas de la source, ça veut dire. Je ne sais pas, il faudrait demander à Véronique...
Ah, c'est les Pyrénées,
si,
alors.
Pierre Loti... D'accord. Enfin, en tout cas, c'est Mademoiselle Pluie d'Avril qui lui avait fait connaître. Mademoiselle.
Ah, Mademoiselle Pluie d'Avril, comme c'est joli. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est plausible que Pierre Loti se soit intéressé à Chito-Chito.
En tout cas, c'est la saison, incontestablement. On est au printemps.
Oui.
Mademoiselle Avril, les cerises en fleurs. Chito-Chito, c'est souvent au printemps.
Et la danse du miso aussi ?
Alors, le miso... C'est la soupe à laquelle je pense, c'est une source d'eau chaude, alors plutôt...
plutôt pour l'hiver. Oui.
C'est les Pyrénées.
Non, je ne pense pas que Pierre Loti pensait à la soupe.
Non, jamais, mais c'est dommage. On n'a pas de film, on n'a pas de photo, on n'a
rien.
Il
n'y avait pas de restaurant japonais à l'époque de
Pierre Loti. C'est peut-être comme la cérémonie du pan, pardon.
Il n'y avait pas de restaurant japonais à l'époque de Pierre Loti, donc le miso, c'était...
Je n'y étais pas.
Au Japon, il y en avait.
Il n'y en a toujours pas. Il y a des cambuses, il y a des cantines, mais il n'y a pas de restaurant japonais.
Bon, Heredia et Pierre Loti ont écrit sur le Chito Chito, version Jean-Bernard Puy. Avec vous, Luc Cafourny, on est dans un autre sens. On est avec La Fontaine, et puis avec qui?
Et puis avec encore un grand écrivain voyageur, qui est presque le Pierre Loti du XXe siècle, qui est André Gide.
Ah oui?
Oui, vous voyez comme le mot est... et voilà, Chito Chito. Alors, ce n'est pas au Congo, c'est au Tchad. Et je vous lis cet extrait de ce retour du Tchad.
Voilà, et donc il est allé chercher très loin quelque chose et
oui,
frustration
oui,
en arrivant.
Oui, un ksour, vous allez oui. découvrir ce que c'est. Je me souviens d'une longue course par un sentier rocailleux en pente rapide encombré de cailloux vers Tsatsa, où je voulais voir un ksour oublié. Ma solitude m'exaltait et m'exaspérait à la fois. La réclamation de mon cœur devint à la tombée du jour si véhémente que tout en marchant à grands pas, à si grands pas qu'il me semblait voler, c'est-à-dire que je courais presque, j'appelais instamment ce camarade dont l'exaltation fraternelle eût gémellé la mienne et je me racontais à lui et lui parlais à haute voix et sanglotais de ne point le sentir à mon côté. Et voilà qu'un pas derrière moi fit trembler l'air du soir. C'était le régiment de marche du Tchad du commandant Péco, parti à ma recherche. Ainsi, Tsatsa se transforma en funeste Chito Chito.
Oui, on retrouve l'aspect funeste, hein. Le tragique, donc une certaine violence qu'il y avait dans les quatre écrits. Alors, Véronique, il y a un rapport.
Alors, j'ai eu un petit espoir au moment de la marche, mais elle était trop exaltée pour convenir à Chito Chito.
Ah bon,
il y a quelque chose de plus retenu tout de même dans le Chito Chito.
Davantage de pudeur.
Disons que l'exaltation d'André Gide, hein, qui nous
oui,
a
oui.
été démontrée ici, encore une fois, est absente quand même du mot Chito Chito.
Ah.
On n'a pas un tel épanchement.
Ah bon? Mais peut-être les Japonais jamais, non? C'est penché assez peu, les
Japonais. Je ne prononcerai pas.
Alors, ça veut dire quoi, Chito Chito?
Alors, Chito Chito, dans son acception la plus répandue, c'est une pluie fine et persistante, et c'est particulièrement la pluie du printemps. C'est une sorte de bruine, mais qui dure et qui dure très longtemps.
Pluie d'avril.
Oui, 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 c'est chez Pierre Loti.
La saison est à qui l'a trouvé.
Merci Eva. On va t'écouter, toi.
Alors, c'est une. On dit en général, Harusamega otomonaku sito sito furu. C'est-à-dire que c'est une pluie de printemps.
Non, non.
Au Tchad, il y avait un général.
Donc, c'est une pluie tranquille et fine qui tombe presque sans bruit.
D'accord.
C'est un concept breton un peu.
C'est un crachin.
Alors, doit y avoir un équivalent en breton.
Kerchito.
Chito encore.
Chito.
Ah ben, il y a le chito.
La pluie fine du matin.
Ah, le kerchito, oui, c'est tout bien.
La pluie fine du matin qui tombe pendant trois jours, oui, c'est assez proche de cet esprit qui finit par être un peu pesant tout de même.
Oui, il ne faut pas que ça dure.
En imprégnant tout et en particulier. En particulier quand on fait la cuisine, on utilise beaucoup d'algues. Et si on oublie de fermer la boîte métallique dans laquelle on met les algues, qui doivent crisser pour être oui. agréables, elles deviennent humides à cause de cette ambiance de pluie permanente. Et donc elles sont aussi chito-chito, c'est-à-dire rendues humides par la pluie qui ne cesse de tomber.
Ah oui, bah oui, tout, même les cheveux, je suppose.
Les gâteaux secs, tout.
Les gâteaux secs.
Donc ça peut être très joli si c'est humidifié, rendu humide par la rosée, par exemple. Tsuyu ni shito shito ni noreta, donc des pétales de fleurs, par exemple, rendus humides par la rosée. Mais c'est beaucoup moins pratique quand on doit étendre le linge, par exemple, parce que ça ne sèche tout simplement jamais.
Ah oui.
Oui. Donc ça, c'est un des désagréments de cette pluie. Donc on dira, par exemple, en tout cas c'est encore plus vrai la saison des pluies, tsuyu toki no sentaku mo wakaite mo nantonaku shito shito suru, rien à faire, la saison de pluie, le linge qu'on met à sécher reste humide,
ce qui est désagréable, hein.
C'est
oui.
À la fin ça finit par être pénible,
oui.
Mais il y a un aspect qu'on utilise aussi de manière plus métaphorique dans ce caractère persistant, lent, mais tranquille
oui.
aussi.
Oui.
On dira aussi d'une démarche qu'elle est chito-chito.
Ah, hein?
Chito-chito aruku, c'est marcher lentement d'un air un peu mélancolique. Ah, donc il y a une forme de distinction quand même. Donc, dans la première partie du texte retrouvé de Pierre Loti, il y avait une sorte de raffinement, de quelque chose d'impondérable qui pouvait correspondre à une démarche Shito-Shito.
Mais par contre, j'aimerais m'inscrire en faux contre le manque d'épanchement des Japonais, parce que je trouve qu'il n'y en a pas plus gros que le harakiri quand on met
c'est un épanchement, c'est la littérature à l'estomac.
Alors, est-ce que vous avez des traces dans la littérature de ce Shito-Shito ? Là, on était dans la vie quotidienne.
Oui, alors j'ai trouvé chez le poète Masaoka Shiki, qui aurait pu connaître José María de Heredia, donc il a vécu à la fin du 19e siècle, dans les premières années du 20e siècle, qui est le grand rénovateur du haïku. Il a malheureusement été longtemps souffrant et sa perception du monde a fini par se réduire à ce qu'il voyait par la fenêtre de sa chambre, puisqu'il est resté alité de nombreuses années. Et dans son journal, il y a bien sûr beaucoup de notations sur l'état du ciel et de sa souffrance qui gagne en même temps. Alors voilà ce qu'il dit à la date du 20 mai 1901. Itama nu ni mo arazu. Ce n'est pas que je souffre pas. C'est pas non plus que je souffre. Ame shito-shito furite, chinto ni kyaku nashi. La pluie tombe doucement et personne n'est à mon chevet.
Ah bah oui, le côté, il y a la détresse profonde là quand même. Hein.
Mais juste dans la suite du texte, il retrouve un petit peu d'allant puisque par chance, il a reçu au courrier une vieille revue envoyée par le professeur Oshino qui l'éclaire sur un point qui lui était obscur depuis une dizaine d'années. Il en est très heureux.
Tout va bien. Autre chose ?
Alors, on trouve des exemples plus brefs dans des scénarios de films. Par exemple, le romancier qui est Satomi Tan, dont on connaît plus les scénarios des films d'Ozu, comme Fin d'automne ou Fleur d'équinoxe. On trouve là cette expression, justement, de Tsuyu ni hito hito ni noreta, de paysages comme embués par la rosée.
Serge Joncourt, je vous ai senti très ému, pas tant par ce qu'ont dit vos camarades Jean-Bernard Pouy, Lucas Fournier, parce que bon, vous avez l'habitude.
Non,
c'était très très joli, vos pastiches étaient magnifiques, mais par la voix de Véronique, puis par cette langue japonaise et ce sens japonais. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Non, je suis assez intrigué. Par la pluie du matin qui dure 3 jours.
Oui, évidemment.
Et je me demandais donc si elle ne dure que 24 heures, est-ce qu'on peut parler de Shito tout court ? Je projette d'aller au Japon, donc j'essaie un peu de...
Des papous dans la tête, c'est fini pour aujourd'hui. Une émission proposée par Françoise Tressard avec Anne de Pelchin et Pierre Nine. À retrouver pour le podcast sur franceculture.fr. Prochain rendez-vous avec nous, dimanche à 12h50 pour la première partie de notre émission enregistrée en public, vendredi, Vive la sociale. Au revoir, passez un très bel après-midi à l'écoute de France Culture. Vous y serez toujours en très bonne compagnie. The plane out on 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 the plane out